Bienvenue dans le podcast Le Procès du siècle, Délibération citoyenne.
Une série d'entretiens imaginés et produites par le MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée.
Pour cette première saison 2021-2022, il sera question de nous
et de l'usage que nous faisons du monde.
Par exemple, allons-nous vider les océans?
Face au dérèglement climatique, est-il trop tard?
Avons-nous encore la maîtrise du temps?
À chaque épisode, nous appellerons à la barre des excès de nos sociétés contemporaines et irons, avec Lionel Bordeaux et Anne-Cécile Bras,
à la rencontre de deux experts et de paroles citoyennes.
Bonjour, bienvenue dans cette quatrième session des Grands Procès du siècle organisée par le MUCEM, avec aujourd'hui pour thème « Faut-il sauver tous les animaux ?» Une question provocante, mais qui peut se poser finalement au regard de la situation catastrophique détaillée dans les derniers rapports qui ont pu être publiés sur la sixième extinction du vivant, dont nous sommes aujourd'hui les témoins et dont nous allons pouvoir discuter, accuser sans doute l'humanité, des témoins aujourd'hui pour débattre et éclairer ce débat. Avec nous aujourd'hui, Bruno David, naturaliste et président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a publié aux éditions Grasset, à l'aube de la sixième extinction, « Comment habiter la Terre ». Bruno David, bonjour.
Bonjour.
Pour donner des éléments factuels, c'est qu'on entend souvent parler de cette sixième extinction du vivant, pas simplement des animaux, mais du vivant dans son ensemble, du végétal, des animaux, et évidemment peut-être à la fin des êtres humains. Peut-être donner quelques éléments factuels. Quand on parle de sixième extinction, c'est qu'il y a déjà eu cinq extinctions avant celle-ci. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que justement la science peut nous dire de ces extinctions?
Alors, depuis, si on remonte 500 millions d'années en arrière, il n'y a pas besoin de remonter plus loin, ce qui est déjà pas mal. Hein. Je rappelle que Lucie, elle a 3,5 millions d'années, donc c'est pas si vieux que ça. Donc, si on remonte 500 millions d'années en arrière, on s'aperçoit que l'histoire de la biosphère, elle était loin d'être un chemin tranquille. Il y a une cinquantaine de crises qui jalonnent cette histoire, dont cinq crises majeures, qui correspondent à l'extinction d'à peu près 80% des espèces à ces différentes époques. Donc ça fait vraiment un impact assez considérable sur la biosphère à chaque fois. Et à chaque fois, c'est lié à des phénomènes externes, puisqu'il n'y avait pas d'Homo sapiens sur la planète à ces époques, qui sont des grandes éruptions volcaniques, des modifications de la géographie des continents qui fait que les mers peu profondes qui entourent les continents sont plus réduites, une perte d'oxygène dans l'océan aussi, par exemple, ça peut intervenir. De temps en temps, des météorites, mais pas que. Ce n'est pas la cause principale, simplement parce que d'abord, il y a un certain nombre de crises, dont la plus grande de ces cinq crises où il n'y a pas de météorites, il n'y a aucune trace de météorites, premièrement. Deuxièmement, il y a des impacts de météorites assez conséquents sans qu'il n'y ait nécessairement de crise derrière. C'est un facteur qui est ni suffisant ni nécessaire pour provoquer une crise. Ceci dit, il y a 66 millions d'années, au moment où les grands dinosaures allaient s'éteindre et que les ammonites dans les océans allaient aussi s'éteindre, il est bien tombé une météorite, et une assez grosse météorite, qui est tombée au Yucatan, donc au Mexique, il y a 66 millions d'années. Donc on a bien cette météorite, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi bien du côté des ammonites que du côté des dinosaures, les déclins étaient déjà amorcés. On a la preuve paléontologique qu'il y avait des déclins chez les dinosaures depuis plusieurs dizaines de millions d'années.
Ça, c'est un élément que vous soulignez, c'est que souvent, une extinction n'est pas le fait d'un seul élément, mais de plusieurs éléments conjugués.
Alors, toutes les crises du passé, si on prend les cinq grandes crises majeures du passé, et qu'on essaye d'en tirer des leçons, qu'on essaye de regarder ce qu'elles ont été, on s'aperçoit qu'elles ont toutes été multifactorielles. Il y a toujours plusieurs facteurs derrière une crise. Ça fait partie des caractéristiques des crises. Que ça soit donc la météorite, le volcanisme, la géographie des continents, on a toujours plusieurs facteurs derrière les crises. Et une crise, elle doit répondre, elle répond à trois caractéristiques majeures. Premièrement, elle est d'ampleur mondiale, elle touche toute la planète. C'est pas, la crise, elle n'est pas régionale. Elle est relativement rapide à l'échelle géologique, c'est-à-dire quelques centaines de milliers d'années, voire 1 ou 2 millions d'années. Donc c'est quand même très long à notre échelle à nous. Et puis elle va impacter pas mal de groupes différents, ce qu'on appelle des taxons. Elle va impacter à la fois des organismes marins, des organismes terrestres, des vertébrés, des invertébrés. Elle va impacter pas mal de groupes. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une situation multifactorielle. On est dans une situation où pas mal de groupes sont impactés. On est dans une situation qui est globale à l'échelle de la planète, bien sûr. Et on est dans une situation qui va très très vite, et même bien plus vite que toutes les grandes crises du passé.
Alors vous êtes venu avec une première pièce à conviction, qui est un caillou étrange. Est-ce que vous pouvez le décrire pour les auditeurs?
Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un petit calice, on appelle ça un calice. Ça ressemble à une petite fleur. Quand on la regarde dessus, c'est comme s'il y avait 5 pétales avec des zones entre les pétales. Ça fait comme une sorte de petite tulipe miniature. C'était un animal quand il était vivant. Il n'y avait pas seulement ce calice, il y avait également une tige qui faisait une 20 cm. Et ce panache se déployait dans le courant et il captait des particules dans le courant avec cela. Donc cet animal s'appelle un blastoïde.
Pourquoi avoir choisi d'amener un blastoïde aujourd'hui ?
Alors parce que celui-ci vivait il y a exactement 250 millions d'années. Et il a été une des victimes de la grande crise, de la troisième des grandes crises qui a frappé la biosphère, qui est la crise qui sépare l'ère primaire de l'ère secondaire, qui a été la plus grande de toutes les crises.
Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 250 millions d'années ?
Alors il y a 250 millions d'années, tous les continents étaient regroupés en un seul bloc. Le niveau des mers a baissé. Ce qui fait que les mers qu'on appelle épicontinentales, qui sont autour des continents et qui ont des profondeurs entre 0 et 200 mètres de profondeur, ont une surface extrêmement réduite, puisque non seulement il y avait peu de littoral, tous les continents étant réunis, mais en plus, le littoral, il était à un endroit où il y a une pente qui est très forte. Donc la largeur de la tranche d'eau 0-200 mètres, elle était très fine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu de gigantesques éruptions volcaniques dont on trouve la trace dans la Sibérie actuelle. Et ce sont des éruptions volcaniques, si on prend un équivalent, c'est l'équivalent de 7 km de lave sur la surface de la France. Donc c'est monstrueux ce qui s'est passé. Et donc ça a changé le climat. Ça a fait des oscillations climatiques avec du chaud, du froid et inversement. Et ça s'est passé à plusieurs reprises, ce qui fait que la biosphère a été très déstabilisée.
Tout a été déstabilisé, mais quand on voit ce fossile, il paraît tout petit. Donc c'est l'intégralité de la vie sur Terre qui a été décimée à ce moment-là ?
Tout a été décimé. Les formes continentales, les formes marines, c'était un animal marin. Et je peux rajouter même que ce sont des animaux très spectaculaires parce qu'ils vivaient sur le fond de la mer et ça faisait des sortes de prairies sous-marines. Et ces animaux qui avaient sans doute de très belles couleurs en plus, parce qu'ils ont des descendants actuels, qui sont les étoiles de mer et les oursins, indirects, hein, très indirects. Ce groupe a entièrement disparu, les blastoïdes ont disparu, mais ils ont des cousins encore actuels qui ont de très belles couleurs, et on peut penser qu'ils avaient de très belles couleurs. Et qu'on avait un fond de mer qui devait ressembler à un tableau de Monet, à un champ de coquelicots de Monet, sur le fond de la mer, avec des milliards de ces individus.
Pourquoi vous avez choisi d'amener, du coup, quelle est la leçon que vous tirez de ce fossile de quelques centimètres ?
La leçon de ce fossile, c'est que c'était un groupe extrêmement florissant avant la crise, et qu'une crise, ça fait des gagnants et des perdants. Et que celui-ci faisait partie des perdants. Et que ça doit nous servir de leçon aussi et de se dire, on est face à cette sixième extinction qui est en train de se dessiner. Peut-être que nous ferons partie des perdants.
Nous, les êtres humains ?
Les êtres humains, oui. Parce que finalement, ces animaux-là, ils étaient quand même très nombreux. Et s'ils avaient été dotés de conscience, ils auraient pu se dire, mais dans ces mers de la fin de l'ère primaire, regardez, nous sommes des milliards. Que peut-il nous arriver ?
C'est peut-être le moment d'entendre le témoignage d'Edouard Delaubry, qui est conservateur au MUSEM, qui est responsable du pôle agriculture et alimentation. Et Edouard est venu avec un autre objet. Cette fois-ci, ça n'est pas un fossile qui nous vient de 500 millions d'années en arrière, mais Edouard Delaubry d'une ruche. Est-ce que vous pouvez nous décrire la ruche que vous voulez nous faire découvrir aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une ruche fixe. C'est-à-dire que c'est un abri, en fait, pour un essaim d'abeilles. Donc c'est une ruche qui est en vannerie, posée sur un support. Mais j'oppose fixe par rapport aux ruches à cadre, dont on peut bouger les différents compartiments pour extraire le miel. Là, en fait, cette ruche est juste, on pourrait dire, un abri, plutôt à la forme d'un cône, fabriqué en vannerie par un artisan, avec de la paille qui a été enroulée pour faire cet abri. Donc, elle correspond à un modèle, on va dire, le plus ancien de ruche en forme d'abri. Mais aussi, celle-ci a une spécificité, c'est-à-dire qu'elle porte un ruban noir, un ruban de deuil. Et c'est ce qui la rend, en fait, originale, par ce biais, le fait d'avoir posé un ruban de deuil sur une ruche, ça veut dire qu'il y a nécessairement une relation intime extrêmement forte entre la population des hommes et la population des abeilles. Il y a quelque chose de très fort, un lien entre l'homme et l'abeille qui est extrêmement vivace, puisqu'on veut associer les abeilles à tous les rites de passage très importants d'une famille. Et quoi de plus important que la mort, qu'un défunt ?
Alors, on a vraiment l'impression qu'on a perdu ce lien et cette intimité. Il faut savoir que cette ruche date d'il y a...
Alors, cette ruche, elle date des environs de 1900-1920. Elle vient de Savoie.
Donc, il y a un siècle, en Savoie, il y avait cette intimité entre une population d'abeilles et les personnes qui vivaient autour. Un siècle plus tard, qu'est-ce qui s'est passé dans ce lien d'intimité avec les abeilles, entre les abeilles et les êtres humains ?
Je ne sais pas si on peut dire que ce lien a été rompu véritablement, parce que les apiculteurs ont quand même un lien encore extrêmement fort entre leurs ruches, les essaims et les abeilles. Donc le lien existe toujours. Mais on peut dire qu'il y a eu une intensification extrêmement grande de la volonté de faire des essaims d'abeilles une sorte d'usine à production de miel. Voilà, il y a une intensification qui est devenue extrêmement forte. L'idée, c'est un peu comme tout le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est de produire toujours plus, toujours plus, toujours plus, et donc aussi de faire en sorte que les abeilles, on va leur donner de plus en plus de fleurs à butiner pour qu'elles puissent produire de plus en plus de miel. Et donc, en fait, tout le matériel a évolué de cette manière. C'est-à-dire que la ruche qu'on imagine, elle date des années 1900, mais déjà, dans la seconde moitié du 19e siècle, les apiculteurs mettent en place tout un système pour rendre ces abeilles plus productives. Et donc, ces cadres dans lesquels on va placer des feuilles de cire vont permettre aux abeilles, par exemple, de fabriquer les alvéoles de façon plus rapide. Et donc, elles vont pouvoir faire plus de miel. L'apiculteur va pouvoir retirer les rayons de façon, on va dire, efficace. Mais cependant, il y a un point qui est très important et qui est malgré tout positif, c'est que dans les ruches plus anciennes, lorsqu'on voulait récupérer le miel, souvent, on étouffait ou on noyait les seins d'abeilles. Et donc, en fait, la relation était tout à fait originale, parce qu'on se disait, il y a tellement d'abeilles, on ne risque pas de les perdre. Il y en aura toujours, c'est inépuisable.
Alors ça, c'est un point très important, cette question de l'abondance, parce que c'est justement un des sujets sur lequel Bruno David vous insistait, c'est de dire, attention, d'abord, parfois, on confond une image un peu spectaculaire de la disparition de telle ou telle variété, d'une crise plus générale qui, justement, correspond à cette idée d'une abondance perdue. Est-ce que vous pouvez, justement, nous donner ces éléments
Oui, si vous voulez, on parle souvent de biodiversité, et ce terme est commode, il est pratique, il est très utile, même, mais il recouvre différentes réalités. Une des réalités qu'on met souvent derrière, ce sont simplement des espèces différentes. Là, on est en train de regarder dehors, et on voit différentes espèces devant nous, des oiseaux, des arbres. Donc on peut compter ces espèces. C'est ce que les scientifiques appellent la richesse, en fait. Mais derrière chaque espèce, il y a des individus. Combien est-ce que j'ai d'individus au sein de chaque espèce? Combien j'ai d'individus d'abeilles derrière? Et ça s'appelle des abondances. Toutes les grandes crises du passé géologique de la Terre ont fonctionné par des déclins d'abondance. C'est-à-dire que ce n'était pas directement des extinctions d'espèces. Ce n'était pas des espèces qui mouraient brutalement parce qu'il y avait une météorite qui était tombée. Ça ne s'est pas passé comme cela. Ça s'est passé que de génération en génération, il y avait de moins en moins d'individus dans pas mal d'espèces et qu'au bout du chemin du déclin, effectivement, il y a l'extinction. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a un certain nombre d'espèces qui déclinent. Elles sont toujours là, notamment chez des oiseaux, chez des insectes, chez des mammifères, y compris des mammifères ordinaires. Je veux dire, il y a beaucoup moins de hérissons en France qu'il y en avait il y a 30 ou 40 ans. Le hérisson, c'est très banal. Les abeilles, c'est banal. Mais on en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. L'espèce est toujours présente, on ne s'en rend pas toujours compte, donc on appelle ça une amnésie environnementale, parce que c'est difficile d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, de se souvenir à quel point il y en avait plus avant.
Et alors cette baisse progressive, en quoi elle est finalement dangereuse? Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel justement on atteint un non-retour possible?
Oui, il y a des effets de seuil. Il y a des effets de seuil au-delà duquel les écosystèmes se mettront à fonctionner différemment, parce qu'il y aura trop d'espèces qui auront trop diminué au sein de l'écosystème. Et il va se mettre à fonctionner autrement. On a des exemples là-dessus. On a, puisqu'on est à Marseille, au bord de la mer, on a un double exemple qui est celui de la morue des grands bancs de Terre-Neuve. On pêche énormément de morue dans les années 80-90 du XXe siècle. Et en 1991, on atteint un pic de pêche de morue absolument incroyable. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de morue tellement on en a pêché. 92, brutalement, il n'y a plus de morue.
Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
On ne comprend pas. Le gouvernement canadien met un moratoire sur la pêche à la morue instantanément. On n'a plus le droit de pêcher de morue. De toute façon, il n'y en a plus. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pêché toutes les grosses morues. On a peu pêché les poissons de taille intermédiaire qui sont consommateurs des petites morues. Et ceux-là se sont mis à manger toutes les petites morues. Ils n'étaient plus mangés par les grosses morues. Ils étaient tranquilles. Et donc, on a fait basculer l'écosystème dans un nouvel équilibre où les poissons intermédiaires se sont mis à dominer, à manger les petites morues, à ne plus être mangé par les grosses morues, parce qu'on avait dépassé un seuil, il n'y avait plus suffisamment de grosses morues dans l'océan, on avait trop exploité, et 30 ans plus tard, les morues ne sont pas revenues.
Pourquoi, en les protégeant, on n'a pas pu, sans les pêcher...
Parce qu'il n'y en avait plus.
Plus du tout.
Ben, il n'y en avait plus. Les poissons intermédiaires les mangeaient au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Donc il y en avait de moins en moins et il y a un système nouveau qui s'est enclenché. Et là, en Méditerranée, on a eu l'équivalent avec le thon rouge. Le thon rouge était vraiment en déclin, mais on a pris des mesures. Et cette mesure, on les a prises avant que l'effet de seuil ne soit atteint. C'est-à-dire qu'avant que l'écosystème autour du thon rouge bascule dans un nouvel équilibre, on a pris les mesures nécessaires, on a mis en place des moratoires, ce qui fait que le thon rouge est revenu. Et on voit très bien comment ça fonctionne, ces effets de seuil. Sauf que c'est très difficile de prévoir. On ne sait pas exactement quand ni où cet effet de seuil va intervenir.
Il y a plusieurs leçons déjà qui peuvent se dégager. D'abord, dans ce que dit Édouard Delobry, c'est qu'on entend une exploitation économique du vivant. L'homme et la femme ont du mal à voir le vivant autrement que comme une bonne ressource à exploiter. Cette exploitation, à ne pas être regardée autrement, elle risque à un moment de saboter l'espèce en elle-même. Et donc, c'est en est fini de la pêche de la morue aujourd'hui. Le problème, c'est que, et c'est peut-être la deuxième pièce à conviction que vous vouliez produire dans ce débat, c'est que vous êtes arrivé avec une liste qui est une liste rouge. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous en dire un mot ?
Oui, alors ça n'est pas ma liste. Hein. L'Union internationale pour la conservation de la nature, dont le colloque mondial s'est tenu à Marseille d'ailleurs il y a quelques mois, produit en partenariat avec le Muséum pour ce qui est de la France une liste des espèces qui sont éteintes, en danger critique d'extinction, qu'on appelle la liste rouge. En danger, simplement, c'est en orange, ou sans problème, c'est en vert. Je simplifie un petit peu, il y a différentes catégories comme ça. Et on a cette liste rouge.
Elle a été mise en place quand, cette liste, depuis...
Ça fait plusieurs dizaines d'années, ça fait 30 ou 40 ans que cette liste existe. Et elle focalise plutôt sur des espèces qu'on arrive à bien observer, à bien maîtriser, qui sont relativement faciles à observer, qui sont globalement des vertébrés, qui sont des amphibiens, des oiseaux, des mammifères. Ça laisse un peu trop de côté les invertébrés, des animaux plus discrets. Mais globalement, ça fonctionne assez bien quand même. Et la nouveauté qu'on a faite, qui se fait depuis maintenant un an ou deux, c'est aussi qu'on développe la liste verte, c'est-à-dire qu'on regarde les espèces qui sortent de la liste rouge, qui vont passer à l'orange ou qui vont même passer au vert, parce qu'on les aura protégées. On peut penser au grand panda. On voit comment ça fonctionne, on voit très bien comment vient se compléter cette liste rouge et ça nous donne un bon indicateur de l'état de la biodiversité, au moins pour certaines espèces.
Justement, on en est où de cette liste rouge et de son évolution ? Vous dites qu'elle existe depuis maintenant plusieurs années. En janvier, le Muséum national d'histoire naturelle a participé à la publication d'une étude qui montre que la disparition de ces espèces est sans doute plus importante que ce qu'on imaginait. Est-ce que vous pouvez nous donner un élément d'abord factuel, où nous en sommes, et puis peut-être en effet après d'évoquer la liste verte, c'est-à-dire les signes d'espoir?
Alors d'abord, à l'échelle mondiale, la liste rouge, elle a quand même tendance à s'allonger. Effectivement, plus on observe d'espèces, plus on va se rendre compte que les écosystèmes ne sont pas forcément dans un état formidable. Et c'est l'objet de cet article scientifique qui a été copublié par des chercheurs du Muséum début janvier, là, tout récemment, qui montre que si on regarde des organismes beaucoup plus discrets, on va regarder des petits mollusques, mais tout petits, hein, je ne parle pas des gros escargots, hein, c'est vraiment des tout petits mollusques, qui vivent dans la mousse, qui vivent dans les sols, dans la litière, ou qui vivent dans la mer, on s'aperçoit qu'il y a des déclins très importants. Et là où on pensait qu'il y avait des déclins qui étaient de l'ordre en taux d'extinction de 1, 2 ou 3%, on est peut-être plutôt autour de 10, 12%, 15%.
C'est énorme, c'est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait.
Donc c'est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Alors maintenant, si on veut se rassurer, on se dit, mais attendez, les grandes crises du passé, c'était 80%. Alors arrêtez de m'ennuyer avec des déclins à 10% ou à 15%, et même à 20% si on regarde les espèces qui sont en déclin d'abondance et qui pourraient s'éteindre dans les décennies qui viennent, ou 30%, on n'est pas à 80% ou 90%. Simplement, ces pourcentages, on les voit de manière statique. Mais si on les regarde en tendance, si on les regarde en termes d'évolution et en termes de vitesse du processus, on se rend compte qu'on va 100 à 1000 fois plus vite que lors des plus grandes crises du passé géologique de la Terre. Donc on est au début du processus, c'est pour ça que mon livre s'appelle « À l'aube de la sixième extinction ». Mais par contre, les aiguilles de l'horloge tournent très très vite. Et on pourrait très vite se retrouver à midi, l'après-midi, voire le soir, si on ne réagit pas suffisamment fortement dans les années, parce que je pense que c'est une affaire d'années ou de quelques décennies qui viennent.
Alors justement, c'est le moment d'écouter un témoignage qui nous vient de l'océan.
Je suis ici avec mon oncle. Nous sommes venus ici pour défendre notre cause dans ce procès qui pose la question, faut-il tous les sauver ? Et peut-être que vous n'avez pas pensé à nous, mais Mais nous sommes là depuis que nous avons appris que nous faisons partie de la liste rouge mondiale des espèces menacées. Donc nous sommes heureux d'être parmi vous pour pouvoir défendre notre cause. Alors notre peuple des Sélacantes est un peuple très ancien que vous avez découvert en 1938 et depuis, au nom de la recherche scientifique, une surpêche a décimé toute notre espèce. Il en reste une trentaine en Afrique du Sud et nous venons ici pour plaider notre cause, à savoir, est-ce que vous allez nous sauver ?
Alors, j'apporterai peut-être un éclairage sur qui nous sommes. Nous sommes une espèce extrêmement ancienne. Quand vos scientifiques nous ont découvert, quand ils nous ont étudiés de près, en fait, ils ont découvert que nous représentions quasiment comme un chaînon manquant dans l'évolution des espèces, puisque notre squelette n'est pas sans rappeler les squelettes des tétrapodes. Et donc, nous faisons le lien dans cette longue évolution. Alors, évidemment, nous aussi avons évolué au cours de millions d'années, mais enfin, nous portons témoignage dans nos gènes, dans nos squelettes, dans notre apparence physique même, d'espèces très anciennes qui ont peuplé cette terre bien, bien avant vous, humains. Et donc, posez-vous cette question, y a-t-il pas moyen d'être un peu plus soigneux, attentif à ces êtres fragiles que nous sommes ?
Moi, j'aimerais parler d'une expérience personnelle qui m'est arrivée dans la profondeur des eaux. C'est quand les filets ravagent tout, les coraux qui nous attrapent, que la famille se rétrécit petit à petit. J'aimerais que tout cela cesse et j'aimerais aussi souligner cette obscénité qu'il y a dans cette question « Faut-il sauver tous les animaux ?» Parce que nous, nous ne nous demandons pas s'il faut sauver tous les humains.
Bruno David, on vient d'entendre donc ces porte-paroles. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, comme vous dites, une accélération de la disparition, mais en même temps, on pourrait parfois sauver des espèces, on peut les protéger, on peut aussi avoir une action positive. Vous parliez de seuil tout à l'heure sur la question de la morue. Comment justement on peut arriver à mettre en place une forme de méthode pour pouvoir protéger ces espèces,
hein ? Oh, c'est assez simple en fait. Ce qu'il faut qu'on protège, ce sont des écosystèmes. Et il y a plusieurs concepts pour faire ça. On peut protéger des zones importantes. On peut utiliser ce qu'on appelle des espèces parapluies, c'est-à-dire qu'on va protéger, si on protège le tigre, on va protéger tout l'habitat du tigre et on va protéger toutes les espèces qui se trouvent à l'intérieur de l'habitat du tigre. Puisque si on veut préserver un tigre, il faut qu'on préserve son habitat. Donc il y a des espèces parapluies et on peut comme ça préserver des pans entiers de la biodiversité en sélectionnant des espèces emblématiques, en plus auxquelles le public sera éventuellement sensible. Donc le message sera peut-être plus facile à faire passer que si on dit qu'il faut protéger les petits insectes du sol ou les petits vers de terre. Et avec ça, on protège des écosystèmes. Maintenant, dire on va protéger 30% de la surface de la planète, pourquoi pas ?
Voilà, parce qu'en même temps, on rentre en concurrence avec de plus en plus de maisons sont construites, de plus en plus de terres sont mises en culture pour nourrir les êtres humains. Donc en même temps, ces habitats dont vous parlez, ils ont plutôt tendance à être détruits qu'à être protégés.
Donc on est plutôt dans une tendance de destruction. Mais même au-delà de ça, je pense que même en... La vraie question à se poser, c'est comment est-ce qu'on souhaite habiter la Terre ? Quelle éthique on veut pour la planète ? Comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'on coexiste ? Je ne dis pas qu'on cohabite, mais comment est-ce qu'on coexiste avec le reste du vivant ? Et dans ces cas-là, protéger des grandes surfaces, des proportions importantes de surfaces, sans doute que c'est bien. Mais à mon avis, ça n'est pas forcément le meilleur chemin.
Alors quel est le meilleur chemin à ce moment-là ?
Parce que j'ai peur que si on fait de la protection intégrale sur certaines zones, ça nous serve d'alibi pour dire à côté, alors attendez, là je protège là, mais alors à côté je fais n'importe quoi. J'ai le droit de faire tout ce que je veux, je ravage tout. Moi je préférerais qu'on apprenne à coexister, c'est-à-dire que même dans les endroits qui sont les plus anthropisés, où nos pressions d'existence, le fait même que nous soyons présents dans ces endroits, c'est là où on exerce les plus fortes pressions, j'aimerais que là on puisse faire des progrès et qu'on essaye de coexister. Ça peut concerner les villes, où il y a de la place pour de la biodiversité en ville aussi, pour des arbres par exemple. Ça peut concerner les littoraux. 60% de la population de la Terre habite à moins de 100 km d'un bord de mer. Donc ça concerne les littoraux. Et les scientifiques parlent de nouveaux biomes, donc de nouveaux grands types d'écosystèmes, aussi bien pour les villes que pour les littoraux. Ça concerne les grandes plaines agricoles, où on a des marges de progression importantes, en mettant plus de haies, en remettant des bosquets, en faisant des choses comme ça. Et je pense que là, on a des vraies marges de progression. Et je serais presque dans le paradoxe, c'est-à-dire que plus les endroits sont anthropisés, pire ils sont en termes de pressions humaines, c'est là où on a le plus de marge de progrès. Donc aller protéger des forêts du Vercors, c'est formidable, et il faut le faire. Mais c'est encore mieux si on arrive...
à coexister, y compris dans les villes.
Dans les villes ou dans la Beauce.
On va entendre votre dernière pièce à conviction, qui est un bruit dont vous allez nous expliquer pourquoi vous voulez que nous l'entendions.
Alors nous venons d'entendre le bruit d'une rivière, et qui est la Loire de mon enfance, la Loire très en amont, dans la région du Puy-en-Velay, donc on est dans la Haute-Loire, c'est une petite rivière, c'est encore une sorte de torrent qui s'écoule. Et lorsque j'étais jeune, ce torrent était très pollué, même si j'y pêchais avec mon grand-père. C'était un torrent qui était assez... Enfin, c'est une petite rivière qui était assez polluée. Tout le village, par exemple, où habitaient mes grands-parents, le soir, tout le monde allait déverser son seau d'ordures ménagères dans la rivière. Ceci dit, il n'y avait pas de plastique. Hein. Il y avait du journal, des épluchures de carottes, de pommes de terre.
Le compost.
C'était quand même pas terrible. Et la rivière était en mauvais état. Et je me suis rendu compte, plusieurs décennies plus tard, en devenant adulte, que finalement, dans cette Haute-Loire, je revoyais des hérons, je revoyais des rapaces, je revoyais toute une faune qui n'était pas présente lorsque j'étais enfant. Et ça veut dire simplement que l'état de la rivière est bien meilleur maintenant qu'il ne l'était auparavant.
Donc le vivant peut se restaurer, les plantes peuvent repousser. C'est plus facile que pour le climat, parce que nous avons, pour les questions atmosphériques, un effet d'inertie énorme sur nos émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, sur le vivant, on a quand même une marge de manœuvre et d'action qui semble peut-être plus appréciable, plus concrète.
Oui, bien sûr. Pour le climat, on peut être un petit peu désespéré par une action, pour se motiver pour une action individuelle, même si je pense qu'il faut la faire quand même. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des papiers par terre que je suis obligé de jeter mes papiers par terre aussi. C'est plus désespérant parce que c'est dilué dans le climat mondial et que l'inertie du système fait qu'on en verra les résultats dans 10, 30 ou 40 ans. Pour la biodiversité, si on fait des efforts ici et maintenant, on en voit les résultats ici et dans pas si longtemps que ça. C'est-à-dire vraiment en quelques années, on peut en voir les résultats. Et l'état des rivières de France est bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 40 ans. Ça veut dire qu'on a fait des efforts, on a construit des stations d'épuration, on a fait des efforts de préservation de nos cours d'eau, et on a vu revenir des poissons, on a vu revenir les oiseaux qui mangent ces poissons. Donc on a revu tout un écosystème qui s'est réinstallé. Ça veut dire que la biodiversité, elle est résiliente, qu'elle a une capacité de cicatrisation qui est absolument énorme, tant qu'on n'a pas dépassé ces fameux effets de seuil. Et donc tant qu'on reste en dessous, on peut faire le pari et ça va marcher. Et il n'y a pas des efforts absolument monstrueux à faire non plus.
Bruno David, on arrive à la fin de ce grand procès. Nous avons parlé de cette histoire lointaine, des 500 millions d'années, des différentes crises, de l'accélération de la crise dans laquelle nous sommes, de la possibilité d'agir. Pour répondre à cette question provocante qui était le début de notre échange, alors faut-il tous les sauver, ces vivants, ces animaux, ces plantes? Ou devons-nous opérer une sélection parce que nous ne pourrons pas faire ce travail de coexistence avec toutes les espèces qui aujourd'hui sont autour de nous?
Ma réponse, elle est simple. Oui, il faut tous les sauver. Parce qu'opérer une sélection, ça signifierait qu'on serait en capacité de gérer la planète et de gérer le vivant, de mettre le vivant en équation et de se dire « moi, je vais gérer tout ça, je vais transformer les continents en un jardin ».
Ce qui est parfois un petit peu le défaut des êtres humains qui pensent pouvoir faire ça.
C'est un défaut d'arrogance, c'est un défaut de croire que le vivant se gère. Et on n'a pas le temps, mais je pourrais développer plein d'exemples où à chaque fois qu'on a essayé de gérer les choses, ça s'est retourné contre nous parce que le vivant, il est parti dans une autre direction, simplement parce qu'il est vivant et qu'il évolue. Et donc, il faut se sortir ça de la tête. Donc ça, c'est pour une raison très opérationnelle. Mais il y a aussi une raison plus métaphysique presque, philosophique. Au nom de quoi priverait-on nos descendants de la présence de telle ou telle espèce sur Terre? Qu'est-ce qui nous permettrait de nous dire, nous, génération 2022, finalement, ça, j'en ai pas besoin, je le dégage, et tant pis pour mes successeurs et mes descendants. Je pense que sur un plan éthique, ça serait totalement irrespectueux des générations qui vont nous suivre.
J'espère que des enfants écouteront ce podcast. Merci Bruno David, merci aux témoins qui ont participé à cette émission et à très bientôt pour un prochain procès du siècle avec le MUCEM.
C'était le podcast Le procès du siècle,
des libérations citoyennes.
Une série réalisée en partenariat
avec les amis du MUCEM, Libération, Magma et RFI.
Merci de l'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.